Je m'appelle Hugo Ruggieri, donc on va parler aujourd'hui de droit et transhumanisme. Donc juste très très rapidement sur moi, j'ai le diplôme d'avocat, mais je travaille dans une start-up qui s'appelle Doctrine. On est un moteur de recherche juridique. C'est pas du tout le sujet aujourd'hui, mais n'hésitez pas après si vous voulez en discuter plus en détail. Surtout, du coup, j'ai cofondé un organisme qui s'appelle ThinkEdge Plus, qui est la raison pour laquelle je suis ici. C'est, bon, on appelle ça un think tank. Il pourrait y avoir d'autres termes. En tout cas, on est des gens qui nous intéressons au sujet du transhumanisme, principalement du point de vue juridique. À l'origine, ThinkEdge Plus, en fait, a été créé au sein de ce qu'on appelle la clinique de l'école de droit de Sciences Po. Souvent, les cliniques sont assez orientées droit migratoire, accueil, asile. Celle de Sciences Po s'occupe, traite de ces sujets, mais traite aussi service à des ONG, à des entreprises, à des associations pour des domaines plus variés qui touchent quand même plus largement à la RSE. Et en fait, dans ce cadre-là, Emmanuel Lulin, le directeur éthique de L'Oréal, voulait saisir un sujet sur réfléchir le transhumanisme. Concrètement, il y a des recherches scientifiques assez poussées qui ont lieu chez L'Oréal, qui n'a pas toujours eu une réputation au plus haut niveau sur les sujets éthiques et plus largement science avec conscience sur ces développements de produits. Image qui cherche vraiment à changer, donc notamment avec la nomination d'Emmanuel Lulin, qui est maintenant vraiment au plus haut niveau de la direction et qui commence à réfléchir à des sujets de l'avenir. Donc, lorsque les crèmes de L'Oréal ne feront plus que masquer des rides, mais iront modifier génétiquement les pores et les cellules souches, qu'est-ce qu'on pourra en dire, quoi. Et donc, c'est pour ça qu'il a été, il a eu cette initiative. Il a proposé le sujet à Sciences Po et donc on a été plusieurs étudiants à commencer à travailler sur le sujet et ensuite on est devenu autonome et on a nous-mêmes proposé des projets à la clinique de Sciences Po. On a commencé donc sur une première année à travailler sur une saisine du Conseil consultatif national d'éthique sur le sujet du vieillissement, qui a été notre premier sujet de travail, parce qu'on s'est rendu compte qu'on pouvait saisir le CCNE par le biais d'un établissement d'enseignement supérieur. Donc on a envoyé une très jolie question au CCNE sur ce sujet, qui nous a répondu que c'était une très bonne question, qu'il faudrait traiter un jour, et que peut-être qu'il le traiterait. La question est publiée normalement dans la revue. Et on s'est quand même basé sur cette première piste de travaux pour publier une première revue juridique, donc n'hésitez pas à vous en servir, à vous servir de premier numéro que j'ai apporté. Notre deuxième sujet de travail, ça a été l'IA. On a rédigé un rapport qui est aussi en ligne. Tout est disponible. On publie tout en ligne, Creative Commons et ainsi de suite. Donc l'IA, c'était vraiment... On était en plein, juste après le premier rapport sur l'IA gouvernemental, le rapport intenté par Axel Lemaire, dans ce qui s'appelle la stratégie France-IA. Il y avait ensuite eu un rapport de l'OPECST, donc avec une sénatrice et un député, qui avait été mené sur les mêmes sujets, quelle va être la stratégie de la France pour l'IA. On était juste avant le rapport Villani, troisième rapport stratégique sur la France sur l'IA, et personne n'avait parlé des enjeux juridiques. Donc on s'est dit qu'on allait faire notre rapport juridique, qui est centré seulement sur l'IP et la propriété intellectuelle et les données personnelles. Juste une toute petite seconde. Donc on l'a envoyé à Cédric Villani. Il est cité dans son rapport, je ne sais pas à quel point est-ce qu'il a vraiment été pris en compte ou pas. Donc voilà, ça fait partie de nos réalisations, tout le reste est en ligne. Et en tout cas, on est toujours très heureux de venir échanger sur nos réflexions, puisque donc, depuis le départ, la question c'est est-ce qu'on peut aborder le transhumanisme d'un point de vue juridique, et si oui, comment faire. La première partie, évidemment, en bon juriste, on ne peut pas se parler de réguler le transhumanisme sans se poser la question de qu'est-ce que c'est que le transhumanisme. Le droit a besoin de définition. Et du coup, c'est évidemment par là qu'on a commencé. Je vais d'abord vous donner la définition à laquelle on a abouti nous. Donc le recours à la technologie pour changer le corps et ou l'esprit. Et je pense que vous serez d'accord avec moi pour dire que cette définition ne veut strictement rien dire et ne pourra pas être très utile pour être utilisée comme qualification juridique. En tout cas, elle pourrait laisser lieu à des milliards de débats d'interprétation. La raison est simple, c'est que en fait, c'est extrêmement compliqué de faire plus précis tout en étant véridique. Parce qu'en fait, on s'est rendu compte, après beaucoup d'échanges avec différents courants transhumanistes, avec différentes personnes qui se réclament du transhumanisme, avec aussi d'ailleurs des personnes qui s'en refusent, tout en pouvant être qualifiées comme telles, mine de rien. On s'est rendu compte qu'il y a une multitude de courants de pensée qui peuvent converger vers cette idée qu'on peut et peut-être qu'on va changer le corps et ou l'esprit grâce à la technique. Ça forme ce qu'on pourrait appeler un courant transhumanisme, mais en fait il y a trop de réalités différentes pour qu'on puisse avoir une définition plus précise et qui englobe la diversité des réalités. On verra du coup ensuite les conclusions qu'on en tire. Mais peut-être ce qui est intéressant, c'est aussi de revenir un tout petit peu en arrière sur d'où est-ce que l'idée vient. Et elle a quand même des concrétisations techniques, ce qu'on appelle la convergence NBIC, convergence de la nanotechnologie, des biotechnologies, de l'informatique et des sciences cognitives. Le terme signifie en fait que une découverte dans l'un de ces domaines amène souvent, et est susceptible en tout cas d'amener, une découverte dans un autre des domaines. Et on a ainsi une échelle commune de la connaissance, de l'innovation, du progrès technique, qui fait que dès qu'on ajoute un barreau dans une discipline, on est susceptible d'ajouter des barreaux dans trois autres en même temps. Et donc, il y a une espèce de course exponentielle à la connaissance humaine dans ces matières, qui fonde un espoir assez plausible d'explosion de la connaissance. Et donc, la science progressant avec cette vitesse de changement du champ des possibles. Donc, vraiment, cette interconnexion, l'étude de l'infiniment petit peut amener à changer, par exemple, la manière dont on construit des machines. Évidemment, l'informatique ne fait que se réduire. D'ailleurs, je ne sais pas si vous êtes un peu adepte de science-fiction, mais c'est quelque chose d'assez intéressant. Par exemple, quand on lit le papa de la science-fiction, Isaac Asimov, qui a prévu énormément de choses aujourd'hui. On parlera évidemment un tout petit peu des fameuses lois d'Asimov. Mais Asimov n'avait pas du tout prévu un aspect, c'est la miniaturisation. Dans l'œuvre d'Asimov, les ordinateurs, plus ils deviennent puissants, plus ils sont énormes, en fait. Ils prennent de la place, ils consument des soleils entiers. Alors qu'en fait, ce qui s'est passé, ça a été l'inverse. Et c'est notamment la nanotechnologie permet des développements informatiques extraordinaires, qui à son tour permet de comprendre un peu mieux le cerveau humain. Ça permet de refaire des machines, et ainsi de suite. Là, il y a aussi une autre fameuse loi, entre guillemets, qui est importante à connaître sur cette idée de convergence NBIC, c'est la fameuse loi de Moore, qui était patron d'IBM et qui a constaté que chaque année, on doublait la puissance de calcul des processeurs. Chaque année, c'est devenu chaque 18 mois, puis chaque 24 mois. Aujourd'hui, on est à peu près d'accord pour dire que la loi de Moore est morte, qu'elle n'est plus valable. En revanche, en fait, on continue à réussir des dédoublements de capacité de calcul, cette fois-ci non plus dans les processeurs traditionnels, mais dans les processeurs graphiques, dans les cartes graphiques, qui sont aujourd'hui de plus en plus utilisées pour les calculs, justement, par exemple, le minage blockchain, Bitcoin, ça fonctionne uniquement avec des processeurs graphiques très particuliers, ou aussi, du coup, les entraînements de modèles d'intelligence artificielle sont aujourd'hui quasiment entièrement réalisés sur des processeurs de calcul graphique. Et là, on retrouve une simili loi de Moore, mais à nouveau sur un délai un peu plus élevé. Bon, en tout cas, dans les années 90, qui a été vraiment l'explosion du développement du transhumanisme, la loi de Moore était parfaitement vivante et il y avait cette convergence NBIC qui a fait que le courant s'est structuré et il était légitime d'y croire. Et en plus, du coup, quelque chose effectivement qu'on peut ajouter sur la définition, c'est cette croyance en l'augmentation. Et c'est un terme qui est impossible à définir précisément là à nouveau, puisqu'il est très conjoncturel. Mais effectivement, entre un nano-chirurgien qui va aujourd'hui travailler à rétablir la connexion d'un nerf optique avec le cerveau et donner la vue à un aveugle de naissance, qui donc n'aurait jamais vu si on n'avait pas opéré cette opération qu'aujourd'hui on devient à peine capable de faire et qui est à la limite de nos potentialités, est-ce que ce chirurgien est dans la réparation ou de l'augmentation? Et est-ce qu'on aura la même conception de son travail dans 15 ans? Est-ce qu'on donnera la même réponse à cette question qu'aujourd'hui? Et donc, bon, y a tout, énormément de réflexions là-dessus. Les lunettes, c'est l'exemple le plus classique pour rebondir. À l'époque, ça pouvait vraiment être considéré comme une augmentation. Aujourd'hui, c'est clairement au statut de la réparation. C'est même remboursé par la Sécu. C'est pour montrer qu'effectivement, il y a cette réflexion. Nous, ce qu'on va essayer de se dire aujourd'hui, c'est qu'effectivement, quand on va parler d'hommes augmentés, on va quand même parler de choses qu'on n'est même pas encore capable de prévoir aujourd'hui. On va parler de prothèses qui vont permettre de décupler la force plutôt que de simplement pallier au manque d'un membre, par exemple, d'interconnexion entre cerveau et machine, ce genre d'augmentation-là, qui sont les plus lointaines et du coup aussi celles qui posent le plus de problèmes, de questions, de problèmes, de fantasmes aussi potentiellement. Mais évidemment, donc il y a cette question de la réparation et de l'augmentation est clé dans la définition, dans une éventuelle définition du transhumanisme. Donc beaucoup de médecins aujourd'hui pourraient être considérés comme transhumanistes, s'en refusent en fait, mais leurs travaux sont vraiment à la limite entre la réparation et l'augmentation. Et enfin, il y a quand même dans tous les courants transhumanistes une forme forcément de croyance dans le progrès, que le progrès est une force plutôt positive, ou en tout cas qu'elle peut forcément amener du positif. Évidemment, ils sont conscients le plus souvent des potentialités négatives, mais il y a une croyance qu'on peut vraiment, grâce au progrès, amener avoir un impact positif pour la planète, pour l'espèce humaine et ainsi de suite. Donc on est très éloigné de d'autres courants aujourd'hui qui commencent à émerger aussi, par exemple de décroissance, alors que l'environnement est tout aussi important, hein, par exemple dans certains courants transhumanistes, mais ils vont pas du tout avoir la même approche et la même façon de solutionner la question. Pour un transhumaniste, la question environnementale, a priori, elle va se régler grâce au progrès. Et plutôt que de se dire au contraire on va essayer de changer la façon dont on va vivre pour accompagner le développement d'une nouvelle manière. Là encore, tout ça reste très général, ça ne permet pas de définir plus en détail. Et donc la raison, c'est comme je vous le disais, celle-ci. En fait, il y a vraiment une variété de mouvements assez énormes. Donc là j'ai mis quelques mouvements et j'ai mis quelques personnalités, mais il y en a vraiment beaucoup, tellement qu'en fait il y a même parfois des sujets sur lesquels il y a dissension, et le sujet le plus emblématique de cette dissension, c'est la fameuse singularité. On va en reparler juste après, donc je ne vais pas détailler aujourd'hui. Donc on va par exemple avoir des courants transhumanistes qui vont être pro-singularité, dont c'est le but est la recherche de la singularité, l'accomplissement de la singularité, quel qu'en soit le coût, parce qu'ensuite ça permettra de résorber certaines autres questions et ainsi de suite. Il y a vraiment une croyance que la singularité sera le point tournant d'un changement à tous les niveaux. Donc on a notamment José Luis Cordero en bas à droite et le très connu Ray Kurzweil en bas à gauche, qui sont singularistes, comme on dit, qui soutiennent ce mouvement. La singularité n'est pas du tout un sujet pour d'autres, voire même serait plutôt une question à réfléchir très sérieusement, voire à éviter. Là-dessus, on pourrait citer donc James Hughes, c'est une sorte de méfiance sage Mais donc dans les autres mouvements, voilà, les premiers grands transhumanistes dans le sens qui se sont affirmés comme tels, qui ont commencé à diffuser la pensée, qui ont commencé à être connus comme tels, c'est Max Moore et Natasha Vitamore, qui sont des Californiens, qui eux sont convaincus que on va pouvoir réussir à travailler et à inverser l'effet d'entropie. Consommation, le fait que les ressources, enfin que l'énergie en particulier, ne se renouvelle pas et donc qu'il y en a une quantité finie. Eux, voilà, leur conviction et leur recherche sont poussées sur le fait d'inverser le mouvement d'entropie et donc au contraire de réussir à créer de l'énergie pour potentiellement du coup une vie limitée, même à l'échelle, là on parle de l'univers. Il y a beaucoup de courants qui sont axés spécifiquement sur la question du vieillissement. Donc là encore, en fait, la singularité, ils prennent même pas forcément position dessus. Ça les intéresse pas plus que ça. C'est l'un des courants principaux en Europe, avec notamment du coup Aubrey de Grey, qui est tout à droite, qui travaille, qui est chercheur dans l'université anglaise. Je sais plus si c'est Cambridge ou Oxford. Donc Didier Carnel, qui est le représentant principal franco-belge de l'association française transhumaniste, et qui vraiment ne fonctionne que là-dessus. Une transhumaniste qui m'intéresse beaucoup, c'est Liz Parrish, une américaine, une start-upeuse. Elle a créé une entreprise qui s'appelle Bioviva, qui travaille donc là aussi sur la question du vieillissement et donc sur la question de création de pilules qui pourraient ralentir les effets du vieillissement, et qui a une approche extrêmement intéressante puisqu'elle est aussi juridique. Elle se demande et elle travaille sur comment faire pour faire reconnaître le vieillissement comme une maladie aux États-Unis et donc obtenir, tant que se faire se peut, je ne suis pas du tout spécialiste des systèmes de sécurité sociale aux États-Unis, mais évidemment obtenir les conséquences légales de la reconnaissance de ces pilules comme des médicaments. Quelque chose de notable évidemment sur cette photo, c'est le peu de femmes qu'il y a dedans et aussi la couleur de peau de toutes ces personnes. Le transhumanisme, ça reste quand même aujourd'hui une question principalement abordée par des mâles blancs plutôt de sociétés occidentales, ce qui forcément aussi va impacter fortement la manière dont il est réfléchi. Il y a quand même des courants, notamment je pense à celui de l'AFT et de Didier Cornell et de ces courants européens qui prennent vraiment en compte les inégalités d'accès à la technologie. Aujourd'hui et demain a fortiori si on commence à développer forcément des technologies qui sont susceptibles de changer l'espèce, mais il n'y a pas encore à ma connaissance de vrais efforts pour associer d'autres pays, d'autres personnes à la réflexion plus générale, ce qui est évidemment en tout cas à mon sens extrêmement regrettable. Donc voilà, nous à l'issue de ces rencontres, à l'issue de ces discussions, à l'issue de tous ces échanges, le constat c'est que le transhumanisme en tant qu'idéologie unifiée n'existe pas, qu'il y a une multitude de courants et que du coup il vaut mieux s'intéresser à ces concrétisations, donc à ce qui est déjà possible et aux recherches qui sont effectuées pour ce qui sera possible demain à plutôt court terme. Évidemment, les réflexions sont aussi très intéressantes à mener sur les technologies très futuristes, mais on préfère quand même se demander déjà comment on peut régler les problèmes auxquels on est confronté aujourd'hui. Et c'est assez intéressant de voir ce qui est déjà possible. Donc j'ai juste une petite vidéo. Et en fait, il y a juste un petit moment de cette vidéo qui m'intéresse particulièrement. C'est pour ça que je vais enlever le son. Donc, on est face à un monsieur qui est amputé des deux bras, à qui on équipe des prothèses et qui commence à faire ses tests de ses prothèses. La manière dont elle marche, du coup, le mouvement comme ça, c'est peut être interprété en signaux électriques. Donc, on met des capteurs sur ses moignons. On capte les impulsions quand il imagine bouger ses bras. Les mini-impulsions qu'on peut sentir à ce niveau-là, et on les retranscrit, on retranscrit le signal électrique et on fait bouger la prothèse ensuite. Et donc là, on les voit attachés, mais en fait, on n'a pas du tout besoin qu'elle le soit. Et ce monsieur peut en fait bouger ses bras à distance. Alors c'est fugace, mais c'est vraiment un moment qui, quand j'ai vu cette vidéo, qui m'avait marqué, parce que là on est tout de suite dans quelque chose qu'on imagine comme complètement futuriste. En fait, c'est possible dès maintenant, et donc là c'est utilisé à des fins de réparation, mais le même mécanisme pourrait dès à présent être appliqué à un humain qui a ses deux bras et lui rajouter deux autres bras, voire 15 autres bras. Il suffit d'un entraînement mental, en fait. Mais là, on est juste vraiment sur capter des impulsions électriques et les retranscrire sur un autre objet. On peut déjà, donc, dans l'état de la technique, se démultiplier les membres, et voire même les contrôler à distance. Là, c'est aussi une... Alors, j'ai évidemment pas lu l'article parce que j'ai pas du tout les compétences en sciences pour être capable d'appréhender un article de recherche de ce niveau. Mais la traduction en français de ce titre, c'est « On a réussi à inverser les effets du vieillissement sur des cellules de souris grâce à des traitements au niveau génétique ». Là encore, du coup, on est a priori dans la science-fiction totale, et en fait, la peau de la souris, alors on est vraiment que sur quelque chose de très localisé, et ainsi de suite, mais ça reste assez saisissant, surtout qu'on est en 2017, on réussit donc à complètement inverser, et ce qui était la cible de la recherche, c'était spécifiquement les effets du vieillissement. Et qui ont été complètement inversés. La souris a retrouvé ses cellules de jeunes petites souris. Un mot du coup sur ce qui est possible aussi en termes d'IA, et donc je reviens sur cette notion de singularité. L'IA, c'est vraiment surtout aujourd'hui le buzzword total. Donc IA, intelligence artificielle, c'est un terme qui est assez galvaudé et qui en plus est revenu sur le devant de la scène parce qu'on a accompli des prouesses technologiques assez récemment, mais qui est qu'en fait on fait de l'IA depuis assez longtemps, depuis au moins 50-60 ans. IA, donc, c'est intelligence artificielle, ça veut juste dire en fait faire à une machine quelque chose qu'on ferait faire à un humain habituellement. Il y a plein de façons de faire de l'IA. La programmation traditionnelle, si quelque chose, alors fait ci, et sinon fait ça, appliquée à certains domaines, comme par exemple chez Doctrine, la reconnaissance du langage naturel, c'est de l'intelligence artificielle. Même juste un programme traditionnel par règle peut avoir des implications d'intelligence artificielle à partir du moment où son application concrète, c'est plutôt de ce qu'on releverait du domaine de l'humain et non pas de la machine. Donc l'effervescence autour de l'intelligence artificielle, c'est dû au mouvement du machine learning. Là encore, le terme peut faire peur. On apprend des choses à des machines. C'est de l'inférence statistique de masse. C'est vraiment comme ça qu'on peut réduire ce à quoi on peut réduire le machine learning. Donc il n'y a aucun risque associé au machine learning, hormis ceux qu'on détaillera ensuite. Mais donc pas de risque que la machine apprenne quelque chose d'autre toute seule. Pas de risque d'ailleurs qu'elle ait une connaissance. C'est vraiment à partir d'un très grand jeu de données, essayer de trouver d'une manière différente, et surtout grâce à des calculs qu'on n'est pas capable de faire, ce qui va unifier ce jeu de données. Donc c'est très utile pour battre le meilleur joueur du monde au Go. D'ailleurs, on est déjà en train de faire des progrès. Ils sont en train de faire jouer les algorithmes d'AlphaGo, de DeepMind à StarCraft, un jeu de stratégie en temps réel sur ordinateur dont je suis personnellement très fan. Il y a encore plus de complexité à gérer ce jeu là et il me semble que l'algorithme est déjà capable de battre 98% des joueurs mondiaux. Ça va très vite, mais la machine n'est capable de faire qu'une seule chose, et elle fait cette chose là très bien, mais elle peut rien faire d'autre. Donc chez Doctrine par exemple, on utilise le machine learning notamment pour nos algorithmes d'anonymisation des décisions de justice. Ça marche très très bien. On ne peut rien faire d'autre avec cet algorithme que anonymiser des décisions de justice. Même d'ailleurs anonymiser autre chose que des décisions de justice, l'algorithme le ferait mal, parce qu'en fait il est habitué à juste un seul type de données, un seul type d'input, et cette notion d'input est nécessaire pour l'intelligence artificielle, à une compétence, un type d'input. Donc il y a peu de risques en l'état actuel de voir débarquer une singularité, qui est donc le terme qu'on donne pour le jour où éventuellement l'intelligence artificielle deviendrait consciente, serait dotée donc de capacités d'apprentissage par elle-même, de n'importe quelle autre quelle compétence humaine. À l'issue de cette première phase de réflexion, le transhumanisme n'existe pas. Une multitude de courants divers, une multitude d'applications qui posent déjà des questions, en tout cas des applications concrètes qu'on pourrait faire relever de ce champ, parce que elles participent quand même de cette idée, donc de, comme on le disait avant, de modifier le corps et ou l'esprit, d'utiliser la technologie pour changer la manière dont on évolue, mais donc pas de mouvement unifié. Mais se pose quand même la question de pourquoi réguler. Et donc là encore, en fait, notre approche, elle consiste à mettre les mains dans le cambouis, redescendre d'un niveau et se dire quelles sont les applications concrètes, de manière sectorielle, qu'est-ce qui se passe en fait. Et en fait, notre approche va vraiment pouvoir être résumée à ça, sectoriellement, quelles sont les pratiques, quelles sont les recherches, quels sont les enjeux, et on pense qu'on peut les traiter secteur par secteur, domaine par domaine, plutôt que avec de grands termes et avec une tentative d'harmonisation. Mais on a aussi une approche qui consiste toujours à se demander pourquoi réguler. C'est quelque chose qui nous tient particulièrement à cœur, parce qu'on est dans une époque d'inflation législative et d'ailleurs jurisprudentielle explosive. La taille du JO a été multipliée par 2 entre 1974 et 2014 en nombre de feuilles de papier. C'est, il me semble, la donnée la plus représentative, parce qu'on peut adopter énormément de lois. Et d'ailleurs, je crois qu'il me semble que le nombre de lois adoptées depuis le début de cette mandature, c'est quelque chose comme 170, mais une loi peut être extrêmement courte. Donc c'est pour ça que le nombre de feuilles du JO nous semble être vraiment une donnée très parlante. Chaque année, il y a 4 millions de décisions de justice qui sont rendues en France. Donc voilà, il y a vraiment une inflation du droit, et c'est pour ça qu'on considère que c'est extrêmement important de se demander est-ce qu'il faut réguler, pourquoi réguler, avant de le faire, et de prendre le temps de faire les choses aussi correctement, ce qui peut éviter des déboires avec certaines lois inapplicables par la suite, ou qui se font retoquer par le Conseil constitutionnel ou encore plus haut. Et donc la première réponse à cette question, c'est il y a quand même des expérimentations et des concrétisations qui font que la question de la régulation est pas insensée. Donc là, juste quelques petits exemples. Ces deux singes qui s'appellent Zhong Zhong et Hua Hua sont des clones. Et c'est la première fois qu'on a réussi, c'était en Chine fin janvier 2018, premier clonage sur des primates. Premier clonage réussi donc. Évidemment, donc tout de suite, la question qu'on peut se poser, c'est on a réussi à cloner des primates, à quand est-ce qu'on clonera des êtres humains? Évidemment, du coup, les médecins qui ont réalisé cette prestation ont tout de suite confirmé que leur but, c'était juste de cloner des primates et qu'ils n'avaient aucune intention de l'appliquer à des humains. Donc forcément, les questions se posent. J'ai vu en plus, en reprenant cette présentation, en essayant de l'actualiser un tout petit peu, ça c'était fin janvier 2018, fin janvier 2019, des chercheurs ont fait naître 5 clones d'un même singe préalablement génétiquement modifié. Donc démultiplication de la modification génétique dans chacun des clones. Du coup j'ai cherché, mais il n'y a pas encore de petite annonce de fin janvier 2020 sur des modifications génétiques ou des clones de singes en Chine, mais je les attends, ils ont encore jusqu'à ce soir pour faire l'annonce. Toujours en Chine, les fameuses jumelles Loulou et Nana, donc premier bébé OGM comme on aime bien les appeler. Donc concrètement, le chercheur He Jianghui a réussi, à l'aide de ce qu'on appelle CRISPR-Cas9, qui sont donc les petits ciseaux génétiques. Plus concrètement, c'est une molécule, une protéine qui permet de se greffer sur la protéine de l'ADN et cibler une lettre en particulier dans un faisceau d'ADN pour donc modifier vraiment le gène spécifiquement. On n'a rien d'aussi précis et c'est extrêmement efficace pour donc aller cibler un gène en particulier. Et évidemment, du coup, quand on modifie un embryon, si le bébé finit par naître, c'est la personne dans son entier qui a été modifiée. En l'espèce, Loulou et Nana sont nés d'un père qui était porteur du VIH, qui ne leur avait pas transmis, mais He Jiankui avait considéré comme nécessaire de modifier le gène qui peut être susceptible de faire que tu vas être porteur du VIH si ton parent l'était. En l'occurrence, c'était même pas le cas. Donc, il a quand même modifié un gène d'une personne qui était complètement saine. Bon, a priori, de ce que j'ai lu, pour le moment, les bébés vont bien. On était fin 2018. Et en attendant, He Jiankui a été condamné, lui, à 3 ans de prison ferme et 400 000 euros d'amende pour pratique illégale de la médecine, qui a eu sanction. Mais donc, là encore, il s'agit plus de se dire, bon, on a des compétences et elles sont appliquées. Malgré, donc, par exemple, une espèce quand même de moratoire international sur le sujet, personne n'avait jamais osé le faire. Il me semble que l'état aujourd'hui, l'utilisation, ça change très vite, mais je suis à peu près sûr de ce que je dis en disant que l'utilisation de CRISPR-Cas9 en Occident commence tout juste à être développée sur le traitement de certains cancers en phase complètement terminale où c'est soit ça, soit on ne fait plus rien. Et il me semble qu'il n'y a qu'une poignée de cas et rien de plus. Il y avait la question des biais aussi, quelque chose de moins tangible, qui peut tout aussi légitimer une prise de conscience et une réflexion juridique. Donc là, je vous ai mis un exemple de Google Translate. La version avant, on se rendait compte que certains termes qui étaient non genrés dans certaines langues étaient traduits de manière genrée dans d'autres langues. Donc concrètement, nurse en anglais, juste a nurse serait traduit une infirmière en français et non pas un ou une infirmière ou infirmier. Donc ils se sont rendus compte de ce biais, ils ont commencé à le corriger, mais c'est un exemple parmi des millions de possibilités de la manière dont, en l'occurrence sectoriellement dans le domaine de l'intelligence artificielle, une technologie peut poser des questions de société et légitimer une réflexion à un autre niveau que la seule possibilité technique. Puisque effectivement là, l'impact est très, très diffus, très subtil, il existe quand même. Il est beaucoup plus concret quand un recrutement est refusé parce que l'algo qui a été entraîné sur les données de l'entreprise favorise les hommes plutôt que les femmes, parce que l'entreprise a toujours recruté plus d'hommes que de femmes, ou dans des cas qu'on voit aux États-Unis plutôt, une personne de couleur de peau noire va être condamnée de manière systématique parce que le système a toujours condamné les personnes de couleur de peau noire. Donc les enjeux, ils sont, on les sent, ils sont d'un ordre moral, d'un ordre éthique. On va s'arrêter un tout petit peu là-dessus. J'ai mis cette citation très longue de Olivier Rey. Donc les promesses les plus spectaculaires des transhumanistes, comme la mort de la mort, ne sont que des leurres jetées dans l'espace public pour arracher le consentement des populations à un asservissement toujours plus complet. La fin en fait complète. L'hybridation avec la machine prônée par les transhumanistes et la négation même de la santé, pareille cyborgisation, nous révélerait tous au statut de patient des services hospitaliers qui ne doivent leur survie qu'à un branchement permanent sur un appareillage sophistiqué. La question sous-jacente, c'est est-ce que la fin justifie les moyens ? Est-ce que vivre en bonne santé dans une société de la cybersurveillance de l'abolition de la vie privée vaut le coup? Est-ce que, d'ailleurs, c'est aussi une atteinte à la liberté de circulation, si on est surveillé partout? c'est la question sous-jacente est d'un ordre moral et éthique, puisque le droit, finalement, ce n'est que la transcription à un instant T de certaines conceptions sociétales, du coup d'une certaine morale sociétale, d'une certaine éthique, sachant que du coup la morale, ça va être vraiment qu'est-ce qui est bien, qu'est-ce qui est mal, la détermination du bien, du mal, l'éthique plus la réflexion de comment agir le mieux possible. La distinction va donc être que on va potentiellement faire quelque chose qui ne sera pas moral, mais qui pourrait être considéré comme éthique. Et là encore, le droit apporte une autre couche de réflexion. Par exemple, le travail des enfants est-il légal en France ? Il est légal, voire nécessaire dans d'autres pays. Est-ce qu'une société internationale qui, par exemple, va produire du cacao dans un pays où le travail des enfants est la norme, moralement, selon nos normes à nous, elle devrait ne rien faire. Éthiquement, dans le contexte dans lequel elle agit, peut-être qu'en fait, faire travailler des enfants dans certaines conditions, s'assurant d'un salaire extrêmement élevé, de conditions de repos adéquates, d'une scolarisation forcée en parallèle, peut-être que c'est la bonne chose à faire dans ce contexte-là, même si c'est donc illégal chez nous et non moral. Donc il faut qu'on réussisse à réfléchir en utilisant ces trois notions, la morale, l'éthique et le juridique, et ce qui rend toute l'approche encore plus compliquée, notamment donc sur l'implémentation juridique de l'ensemble. Comment est-ce qu'on va déterminer la norme en fonction de la notion morale et de la notion éthique? Laquelle doit-on privilégier? De quelle manière aussi? Et comment est-ce qu'on va déterminer la morale ou l'éthique dominante qui sera appliquée? On le voit surtout en ce moment, les débats deviennent de plus en plus crispés dans tous les domaines. Il y a des oppositions de plus en plus fortes. Potentiellement d'ailleurs cristallisé par la manière dont l'information circule, c'est peut-être que la technologie est aussi en cause ici, mais on est donc face à une question qui est tout simplement comment réguler, puisqu'on se dit il y a des questions qui touchent de manière sectorielle à la conception de l'être humain, à notre vivre ensemble, des questions d'ordre moral, des questions d'ordre éthique, une certaine appréhension face au développement de certaines technologies, la question reste comment faire. On a pris ces quatre grandes catégories qui peuvent être évidemment questionnées, qu'on peut contester, mais on s'est appuyé à réfléchir en termes d'avoir donc deux grands principes, ensuite de ce qu'on appelle le droit dur, les lois et les règlements traditionnels, le droit souple et le droit produit par les AAI. Donc la différence qu'on va faire entre droit souple et droit produit par une autorité administrative indépendante. Le droit souple, ça va être le droit privé souple. C'est comme ça c'est le terme qu'on a utilisé. Donc les codes de conduite, les normes RSE, tandis que la régulation va être ce qui va être produit par les AAI. Et donc les questions qu'on se pose, c'est comment chacun de ces outils peut être employé pour répondre aux questions soulevées précédemment. J'ai pris deux exemples très particuliers pour montrer la manière dont on a raisonné. Je pense que je vais m'attarder que sur ce premier-là. L'augmentation humaine est-elle légale ? J'ai pris deux exemples de personnes qu'on connaît, avec qui on a échangé plusieurs fois. En haut, on a Gabriel Lissina, qui est... je ne sais plus de quelle nationalité il est d'ailleurs. Il me semble qu'il est espagnol. Et qui a développé donc une espèce de sérum qui s'injecte dans l'œil et qui lui permet de voir dans le noir complet pendant la durée de fonctionnement du sérum. Donc il fait ça et la question qu'on pose, c'est est-ce qu'il a le droit de le faire? Amal Grafstra, il va encore plus loin, il me semble qu'il est estonien, il a créé un site qui s'appelle Dangerous Things. Donc le nom est volontairement déjà dès l'origine provocateur, et il vend des implants à se mettre soi-même ou avec son tatoueur préféré. Donc des implants de tout type, les principaux c'est évidemment des puces RFID qui permettent de communiquer avec n'importe quel appareil équipé de la technologie NFC, Donc aujourd'hui, n'importe quel smartphone, donc échange de données variées, ça vous permet de... Potentiellement, les applications sont assez nombreuses avec une puce RFID. Vous pourrez valider le tram ou le métro avec votre main. Si vous installez une serrure sur votre porte, ouvrir votre maison de cette manière, payer. Enfin, bon, les applications sont nombreuses et tout ça avec juste votre main. Il y a aussi un autre petit type d'implant qui m'a toujours fait un peu sourire. C'est des aimants à se mettre dans le bout du doigt. Donc la première application concrète, c'est que vous pouvez soulever des épingles avec votre doigt comme ça. Mais en fait, plus concrètement, l'idée qui est aussi liée à, par exemple, à un autre type d'implant qui a vraiment fait le buzz, qui consiste à se mettre une espèce d'implant, généralement ils le mettent sur le torse, qui vibre dès qu'on se tourne vers le nord, le pôle nord. L'idée, c'est qu'en fait le cerveau finit par interpréter ces stimuli d'une nouvelle manière et finit par les comprendre, et l'idée, c'est le développement d'un nouveau sens. Donc en l'occurrence, avec l'aimant, une vibration dès qu'il y a un champ magnétique, et donc une espèce de sens de un feeling qu'on est proche d'un champ magnétique, et en fait on finit par même plus y penser. Au début, c'est comme une petite vibration de votre téléphone portable contre votre peau, c'est dérangeant, on a envie de l'arrêter, c'est quelque chose auquel on réfléchit. Vraiment, l'idée, c'est qu'au fur et à mesure que les terminaisons nerveuses s'habituent, que le cerveau interprète le signal, ça devient une seconde pensée, aussi comme le toucher, l'ouïe, et ainsi de suite. Donc feeling magnétique ou avec l'implant sur le torse, captation orientation vers le nord. Donc la question, c'est est-ce que c'est possible? On est allé se pencher, remonter à la grande source, le code civil, et donc là on voit l'application des grands principes et de la loi à un cas concret. Donc ces normes, vous les connaissez, article 16.1 et suivant du code civil, issu des lois bioéthiques. Ça me permet de faire un petit aparté sur les lois bioéthiques. Le sujet donc a été abordé juridiquement, le sujet de cette éthique de comment est-ce qu'on améliore la recherche et quelles sont les limites qu'on doit se poser, a été abordé en France depuis assez longtemps. Il me semble que le comité consultatif national d'éthique, il est né dans les années 80. Les premières lois bioéthiques qui ont d'ailleurs créé ces textes, c'est 94. Et avec un impératif dès 94 de renouvellement et donc de prise en compte de cet aspect relatif de la morale et de l'éthique sociétale, renouvellement régulier. Donc des lois bioéthiques, il y en a eu en 94, en 2004, en 2011, en 2013 qui a modifié celle de 2011. On était censé en avoir une en 2018. Le calendrier parlementaire en ce moment est un peu chaotique. Et donc le projet de loi est en fait actuellement en débat. Il me semble qu'il vient de passer le stade de la commission au Sénat et qu'il sera donc débattu très prochainement en audience au Sénat, avec en plus une procédure assez rare, non accélérée, donc deux tours d'assemblée, et avec à chaque fois donc des évolutions du droit qui pouvaient même parfois revenir les unes sur les autres. Il me semble qu'au tout début, on avait interdit la recherche sur embryons, puis on l'a autorisé partiellement, c'était sur délivrance d'une autorisation, et qu'en 2013, ça a été en fait élargi beaucoup plus avec une présomption d'autorisation et une possibilité d'opposition. Vraiment, ces lois permettent de prendre en compte les changements sociétaux. Ce sont donc une première. On voit qu'avec un programme comme ça, on est capable de prendre en compte ces problématiques qu'on se pose, à condition qu'il y ait cet engagement presque qui du coup serait envers les générations futures de revenir sur le sujet, remettre le métier, l'ouvrage sur le métier, sachant qu'en fait d'une certaine manière cet engagement vers les générations futures ici, il est moins pour les préserver que pour leur permettre d'exprimer leur propre opinion sur un sujet. On voit quand même que dans les lois bioéthiques, on est sur une ouverture progressive des possibilités de recherche, des possibilités d'évolution. Il me semble là notamment que sur le, on va, ils sont en train de réfléchir à l'ajout de nouveaux articles dans cette section du Code civil sur les principes de dignité dignité humaine relatifs aux examens génétiques. Aujourd'hui, vous pouvez acheter sur Amazon pour 100 € un examen complet de l'ensemble de votre code ADN avec Ancestry&Me ou 23andMe. Et donc, il me semble bien qu'on est en train de réfléchir à l'ajout d'une interdiction de ce genre de test en France, hormis pour des fins médicales ou de recherche scientifique. Toujours est-il que donc on a ces principes d'inviolabilité du corps humain et on a nos amis Gabriel et Amal qui voudraient vous injecter du sérum et des implants. Et donc la question c'est est-ce que c'est possible ? Alors on s'est amusé à regarder la jurisprudence sur le sujet et évidemment il n'y en a pas directement, mais donc de s'inspirer des cas qui pourraient être proches. Alors il y a des arrêts de principe, de vieux arrêts qui sont donc pas du tout basés sur ces principes d'inviolabilité du corps humain, mais qui reflètent quand même dès l'époque l'attention de la société à ces sujets et la manière dont on est susceptible de répondre. On a un arrêt Mongenod de la Cour de cassation du 13 août 1813 qui dispose que celui qui mutile volontairement un conscrit, c'était une amputation du bout du pouce, pour le rendre impropre au service militaire, commet le délit de blessure volontaire, parce que même s'il y avait consentement de la victime, notamment parce qu'il y a attentat à l'ordre public. Donc évidemment là il y a la conception de service militaire qui va entrer en compte, la nécessité de servir la patrie et ainsi de suite, mais on a quand même une blessure qui est commise dans ce cadre là et malgré le consentement de la victime on va considérer que un délit a bien été commis. Donc on voit déjà l'irruption d'ailleurs de la notion de consentement qui est assez présente dans la réflexion de tous ces sujets. Pareil dans les très très vieux arrêts qui font un peu sourire, il y a l'arrêt Copillé 23 juin 38. Donc là c'était un suicide collectif, un couple qui s'était chacun mis en position avec des pistolets. Ils ont chacun appuyé sur la détente, mais un seul des deux membres du couple est mort. Et malgré le consentement, il y a bien eu homicide. Alors l'arrêt est assez intéressant d'ailleurs, parce qu'il y a toute une réflexion sur qu'est-ce qui se serait passé si la personne était morte, est-ce qu'on aurait pu la poursuivre ou non. Enfin, franchement, c'est un arrêt qui est assez intéressant, mais qui traite quand même du fait que les lois qui protègent la vie des hommes sont d'ordre public. Donc à l'époque, la notion d'inviolabilité du corps humain, de dignité humaine, n'était pas forcément encore consacrée au même niveau qu'aujourd'hui, mais elle est sous-jacente très clairement dans la réflexion. C'est elle qui guide ces arrêts de la Cour de cassation. On s'est mis à réfléchir donc de manière plus concrète, justement sur cette notion de consentement. Il y a toutes les pratiques sadomasochistes et la jurisprudence de la cour de la CEDH dessus. On connaît bien les arrêts donc Lasky, Jaggard et Brown de 97 ou KAAD, puisqu'il est anonymisé, c'est assez rare que la CEDH anonymise ses arrêts, de 2002. Ou alors, en fait, dans le premier, dans celui de 97, clairement là on était sur des pratiques extrêmement extrêmes. Et en plus de masse, et la cour avait considéré que l'atteinte à la vie privée était justifiée. L'arrêt de 2002 qui a aidé est beaucoup plus subtil puisqu'il y a atteinte justifiée à la vie privée et donc condamnation légitimée des personnes, mais parce que il avait été prouvé que l'une des personnes qui participait aux activités avait clairement exprimé un retrait du consentement. Et donc, et que c'est ce retrait du consentement qui n'avait pas été respecté, et donc dans ces conditions l'atteinte à la vie privée qui était constituée par la pénalisation des pratiques était justifiée. Il y a une forme de validation ici du consentement de la personne, alors qui est au niveau CEDH, mais qui n'est pas du tout reflétée dans l'état de notre droit, puisque nous on parle vraiment que de nécessité médicale pour la personne ou d'intérêt thérapeutique d'autrui. Et même dans ce cas-là, il faut le consentement. sauf cas extrêmement particulier. Mais on se place vraiment sur la nécessité médicale. Déjà, la notion de nécessité médicale, elle a évolué, parce qu'avant, on était aussi sur l'intérêt thérapeutique de la personne, qui est donc beaucoup plus ciblé. Nécessité médicale, ça a permis notamment de faire entrer la chirurgie esthétique dans le cadre de la licéité. La chirurgie esthétique purement esthétique, on va dire, c'est un peu compliqué de trouver les termes adéquats. Donc effectivement, il y a évidemment la chirurgie esthétique régénérative, lorsque les grands brûlés se font refaire des parties, les parties qui ont été brûlées. On est là dans l'intérêt thérapeutique sans aucun doute, mais la nécessité médicale, c'est la chirurgie esthétique à titre esthétique, non régénératif, on va dire, rentre dedans. C'est un arrêt du Conseil d'État qui l'a clairement validé en 2007. Et cette nécessité médicale, elle a aussi, par exemple, justifiée par la légitimation par le Conseil constitutionnel de l'obligation de vaccin. Donc, une fois qu'on prend toute cette réflexion, qu'est-ce qu'on peut en tirer pour nos amis? Notamment le Conseil d'État, ce qui était hyper intéressant dans sa réflexion sur la chirurgie esthétique, c'est qu'il prenait comme assiette le fait que le législateur avait autorisé dans le code de la santé publique la chirurgie esthétique d'une manière dérivée, puisqu'il imposait des obligations d'information renforcées pour le chirurgien esthétique. Donc la logique, c'était de dire il y a forcément une nécessité médicale, puisque le chirurgien esthétique est soumis à des obligations d'information renforcées, et donc qu'il n'y a pas de méconnaissance de cet arrêt, de cet article 16.3. Et si on utilise la même logique, par exemple, il y a dans le code de la consommation, il me semble, je crois que c'est dans le code de la conso, je me trompe peut-être, sinon ça doit encore être dans le CSP, des réglementations spécifiques au tatouage, avec le type d'encre qu'on est autorisé à utiliser, le type de. Enfin, il y a une vraie réglementation du tatouage sans que celui-ci soit explicitement rendu licite, légalisé. Sachant qu'évidemment, là encore, le tatouage, on peut vraiment se poser la question, est-ce qu'on porte atteinte à l'intégrité du corps humain pour une nécessité non médicale, pour le coup. Et a priori, vu qu'il y a cette légitimation dans le droit, on pourrait dire que le tatouage passe. Donc là, la question sur laquelle la qualification qui jouerait vraiment dans ce cas-là avec Gabriel et Amal serait beaucoup plus, est-ce qu'on porte atteinte à l'intégrité du corps humain lorsqu'on tente d'y apporter une modification. Potentiellement, en fait, on se rapproche beaucoup plus de la faute au sens classique que de l'atteinte, puisque on pourrait se dire qu'il y a atteinte à l'intégrité du corps humain que s'il y a dommage. Et donc calquer cette atteinte à l'intégrité du corps humain sur cet éventuel dommage qui découlerait de ces pratiques qui sont effectuées avec le consentement de la personne. En l'occurrence, Gabriel, quand il s'implante son sérum, ça a une durée de quelques heures, donc pendant quelques heures, s'il n'y a aucune conséquence ensuite. Est-ce qu'on peut considérer qu'il a porté atteinte à l'intégrité du corps humain, sachant que la modification est même plus, est complètement réversible et n'est même plus perceptible. Donc, on n'a pour le moment pas eu de cas qui légitimait l'application de ce texte à ce niveau-là. Est-ce que le corps humain doit être pris comme une notion à part entière, ou est-ce qu'il faut y réfléchir in concreto? Personne par personne. Donc est-ce que effectivement c'est lié à cette notion de faute? Clairement, on voit comment, en tout cas, des grands principes et la loi peuvent déjà s'appliquer à des situations d'aujourd'hui, peuvent poser des questions, peuvent donner des outils à la jurisprudence, puisque je pense que rien qu'avec ces textes, on est capable de traiter la situation. Ça nécessiterait une interprétation par les cours, mais ça donnerait, en tout cas, il y a de quoi traiter le cas. Est-ce que c'est entièrement satisfaisant? Peut-être pas, justement. Parce qu'on voit l'étendue des questions qui se posent face à des textes qui sont forcément par nature généraux, qui peuvent créer de l'insécurité juridique, Gabriel et Amal, ça reste des entrepreneurs, qui en plus prennent des précautions, qui font les choses bien, qui tentent de faire certifier leurs produits, qui donc les font analyser, qui prennent des garanties. Donc il y a des principes comme celui de des principes fondamentaux, hein, comme celui de l'inviolabilité du corps humain, de la dignité humaine. La liberté d'entreprendre, c'est aussi une liberté fondamentale. Alors, à quel niveau est-ce qu'on va la placer au regard de ces dernières? Il n'empêche que s'ils sont dans une situation d'insécurité juridique, eux-mêmes sont légitimes à poser des questions. Quel va être le cadre? Comment est-ce qu'on va, nos produits vont être perçus? Alors, je passe sur la brevetabilité, peut-être brièvement, parce que c'est exactement le même genre de questions. Et là, ce que je trouvais vraiment surtout intéressant, c'est la spécificité française et justement la manière dont la loi peut intégrer un cadre moral ou éthique en particulier, puisque donc le corps humain dans son ensemble n'est pas brevetable, y compris du coup la séquence totale ou partielle d'un gène en France. En fait, au niveau européen, donc là j'ai mis l'article L611-18 du CPI, et en bas c'est son calque dans la directive européenne sur la brevetabilité. Et en fait, en droit européen, il est parfaitement possible de breveter la séquence ou la séquence partielle d'un gène. C'est clairement autorisé. En France, on a pris le contre-pied, on a choisi quelque chose de complètement inverse. On voit vraiment le parallèle, hein. Les deux textes sont assez ils se répondent, mais dans le texte français la séquence totale ou partielle d'un gène n'est pas brevetable. C'est seule l'application technique d'une fonction d'un élément du corps humain qui l'est. Donc là, clairement, alors ce que ça veut dire, je vois vous poser des questions, concrètement, une prothèse va reproduire la fonction d'un élément du corps humain, mais va être brevetable en tant que tel, mais ce sera pas la fonction, par exemple, le pouce préhensible, c'est une fonction du corps humain. Si on crée une prothèse qui en est capable, elle pourra être brevetée pour sa prouesse technologique, la réponse technique au problème technique auquel elle apporte une solution, mais la fonction en elle-même du corps humain ne sera pas brevetée elle-même. Et en revanche, pour ce qui est des gènes, en droit français, c'est pas le cas. Une claire application d'une certaine conception sociétale, d'une certaine morale. La conclusion de cette petite partie, c'est qu'on considère que les grands principes et le droit dur, c'est une première bonne étape. On voit qu'elles fonctionnent en partie. Elles nous permettent d'avoir une boussole directrice, que même certains textes sont déjà applicables, peuvent déjà répondre à des situations, voire peuvent transcrire une certaine situation. Mais on considère que ce n'est pas la réponse la plus satisfaisante. On a ce petit tableau de comparaison entre donc, droit dur, droit souple. Pourquoi est-ce que ce n'est pas la réponse la plus satisfaisante, en tout cas par elle-même? Parce que c'est des domaines qui évoluent extrêmement vite. C'est des domaines qui évoluent extrêmement vite et aussi il y a l'aspect territorial est hyper important pour nous dans cette réflexion. On l'a vu tout à l'heure avec les exemples chinois. Je suis certain que le clonage humain est interdit en droit français. Pareil sur la modification d'embryons. Pourtant, ça n'a pas empêché les recherches dont on a parlé tout à l'heure d'avoir lieu en Chine. Évidemment, c'est tant mieux d'ailleurs, parce qu'à l'inverse, on ne voudrait pas que certaines normes de censure d'autres États puissent s'appliquer en France. Chacun ses valeurs et chacun donc sa manière de les mettre en œuvre. En même temps, ça fait partie de cette réflexion d'ailleurs relative aux droits fondamentaux. Est-ce qu'ils sont universels? À quel point est-ce qu'ils le sont? À quel point est-ce qu'on peut les imposer ailleurs? Et en fait, il se trouve que pour nous, le droit souple est une excellente réponse à la question de la territorialité. excellente parce que, alors certes, elle n'est mise en œuvre que entreprise par entreprise, mais en revanche, généralement, les entreprises vont faire des choix très pragmatiques et mettre en œuvre un code de conduite de manière assez homogène. Toute chose égale par ailleurs, évidemment. Il y a toujours des spécificités des implémentations locales, mais il est beaucoup moins coûteux de déployer une politique de manière générale que d'avoir une différenciation marquée état par état. Donc on verra des modifications des codes de conduite, par exemple, assez à la marge, en fonction notamment de normes locales auxquelles on s'oppose véritablement ou qu'on doit véritablement prendre en compte à l'inverse. Mais généralement, les politiques, les codes de conduite vont être mis en œuvre de la manière la plus homogène possible. Ça relève aussi d'ailleurs de la culture de l'entreprise, tout simplement. Donc avoir une entreprise qui va adopter un code de conduite, si c'est une entreprise multinationale, techniquement c'est un moyen d'avoir un impact ailleurs, et ce a fortiori lorsque ces codes de conduite sont obligatoires. Et c'est un mouvement qu'on trouve extrêmement intéressant, assez récent dans je ne sais plus qui a été l'initiateur entre le droit français et le droit européen, mais en tout cas on voit vraiment un mouvement parallèle dans des textes récents au niveau français, au niveau européen, de nudge pour l'adoption de codes de conduite. Et là je pense notamment au RGPD, où il y a plusieurs articles sur les codes de conduite et une forte incitation à en adopter, voire même la possibilité par la CNIL d'homologuer un code de conduite sectoriel et de le voir appliqué par l'ensemble du secteur. Donc clairement, d'ailleurs, parce que en plus sur le système d'homologation des codes de conduite dans le RGPD, il y a même une possibilité d'une homologation européenne avec l'EDPB qui homologuerait un code de conduite à l'échelle européenne. Il est évident que si par exemple un code de conduite sur là, donc on n'est plus du tout le transhumanisme, mais les cookies publicitaires est adopté au niveau européen, il sera assez probablement mis en œuvre par les entreprises concernées de manière uniforme, parce qu'il serait extrêmement coûteux de faire différemment. D'ailleurs, on a vu que la plupart des GAFAM ont mis en œuvre le RGPD de manière assez homogène, surtout qu'il avait commencé à inspirer en plus des réponses ailleurs, et donc il aurait été extrêmement coûteux. Donc je crois que c'est Microsoft et Facebook notamment qui ont été assez vocaux sur ce sujet, de confirmer que il n'y avait pas de différence entre le traitement des utilisateurs européens et des utilisateurs non européens. C'est un choix qui, évidemment, est non contraignant, mais on voit que, une réflexion purement financière amène souvent à cette conclusion-là. Le droit souple, du coup, il est réactif. Il permet de répondre à une situation à un instant T, et donc notamment de traiter des cas nouveaux sans passer par tout un processus législatif extrêmement lourd et qui doit faire l'objet d'une appréciation longue, à mon sens, pour que justement la norme soit correctement réfléchie, correctement mise en œuvre, correctement écrite. À l'inverse, le code de conduite, lui, sa réactivité fait aussi qu'il peut prendre la peine d'être fait rapidement et d'être amélioré au fur et à mesure. C'est pas très grave de modifier un code de conduite étape par étape, alors que modifier une loi, c'est tout un processus, c'est important, ça peut pas être fait à la légère. Sa réactivité fait que forcément aussi, on peut plus difficilement le taxer de désuet. Les lois bien faites, c'est difficilement le cas. Donc c'est important de prendre le temps. On se rappelle que la loi sur la liberté de la presse, elle date de 1881, elle est toujours applicable à l'ère d'aujourd'hui et elle fonctionne plutôt bien, n'en déplaise d'ailleurs aux actuels débats sur la lutte contre la haine en ligne. Mais ce qui est sûr, c'est que le droit souple pourra prendre en compte certaines évolutions technologiques particulières. Donc comme je disais, il est mondial et ça c'est vraiment un aspect qu'on trouve fondamental dans le fait de pousser pour du droit souple. Le deuxième exemple que j'avais en tête, c'est l'article L111-7-1 du Code de la consommation. C'est un article qui a été créé par la loi Lemaire pour une République numérique de 2016. Elle avait créé aussi l'article L111-7 qui du coup impose des obligations de loyauté et de transparence pour les plateformes qui effectuent du référencement, qui doivent du coup donner plus de détails sur quels sont les critères utilisés pour référencer une personne. Et en fait, l'article, donc ça c'est les obligations générales, l'article L111-7-1, il va plus loin et il impose aux plus grosses de ces plateformes d'adopter des codes de conduite qui doivent aller encore plus loin que les obligations qui leur sont imposées en termes de transparence. Il est associé à un autre mécanisme qui renforce notre conviction de l'effectivité du droit souple, c'est le name and shame. C'est la DGCCRF qui est chargée de contrôler l'application des codes de conduite ainsi adoptés et qui a mandat pour publier sur son site son appréciation des bons élèves et surtout des mauvais. Dans la société de l'information dans laquelle on se trouve, cette pratique-là, elle peut être extrêmement efficace. On voit qu'il suffit d'une petite polémique sur Twitter pour que des salariés soient licenciés. De la même manière, des pratiques peuvent vraiment changer, ne serait-ce que parce que on aura pointé du doigt l'adoption de valeurs et la non-adéquation de l'entreprise avec ces valeurs. Les critiques qu'on fait le plus souvent au droit souple, un, ça prend sa nature privée, et bon, on peut difficilement répondre. Ça fait partie donc du fait même d'adopter un code de conduite. De laisser l'entreprise auto-décider de ce qui va lui être applicable. Donc évidemment, c'est une énorme limitation qui peut être compensée par cette obligation d'adoption, donc d'un certain cadre. Et aussi, c'est pour ça qu'on ajoute toujours la case autorité administrative indépendante par une interaction régulière avec une AAI. Mais c'est sûr que c'est une critique extrêmement légitime. La deuxième critique, c'est la faible portée, la nature non contraignante. Et là-dessus, on est beaucoup moins convaincu par la pertinence de la critique. Du fait de cette espèce de name and shame qui a un fort pouvoir contraignant. Et deux, parce que en fait, en pratique, on voit que cette faible normativité est toute relative. Du côté privé, on a eu en France la mise en examen de Samsung pour pratiques commerciales trompeuses du fait de l'adoption d'un code de conduite sur le travail des enfants non respecté en Chine. Et des associations de protection de l'enfance françaises ont porté plainte en France pour pratiques commerciales trompeuses et Samsung est actuellement mis en examen. Alors évidemment, ça ne préjuge absolument pas du fond de l'affaire. Ça reste un signal fort de la nature quand même potentiellement contraignante de ces codes de conduite, au moins sur l'aspect publicité trompeuse, pratique commerciale trompeuse. Du point de vue des AAI, on voit se développer un fort mouvement jurisprudentiel de reconnaissance de la normativité même de leurs instruments de droit souple. Rien qu'une page web sur le site de la CNIL, c'est du droit souple qu'on peut contester devant le Conseil d'État. Donc il y a même eu un recours assez récent qui l'a rappelé, c'était Quadrature du Net contre CNIL sur les cookies l'été dernier. L'arrêt phare dans la matière, c'est l'arrêt Fervesta de 2016. Là encore, c'était l'autorité de la concurrence et l'AMF qui avaient chacune publié des communiqués de presse sur leur site qui ont été contestés par les entreprises concernées, et le Conseil d'État a reconnu sa compétence et du coup la normativité de ces instruments de droit souple. Alors certes, issu d'autorité administrative, mais on ne voit pas de raison pour que l'évolution se dise, enfin, que la graine semée là par le Conseil d'État au niveau des AI et donc de sa compétence administrative ne puisse pas produire, avoir des répercussions dans l'ordre judiciaire et une reconnaissance plus poussée de l'aspect contraignant des codes de conduite ailleurs. Et on va conclure avec cette dernière potentialité de droit souple, donc qui nous vient c'est les fameuses lois d'Asimov, le fait que le droit souple peut aussi guider en fait le développement lui-même. Et c'est ça aussi qui est intéressant pour nous dans la réflexion, c'est qu'en fait, s'il est effectivement appliqué, il peut mener à pas mal de réponses de la part d'entreprises elles-mêmes. En empêchant tout simplement par exemple l'émergence de marché à partir du moment où la conception de certaines normes éthiques est prise en compte dès la conception du produit. Et ça, c'est un mouvement, encore une fois, on s'inspire pas mal des réflexions sur le RGPD. Le RGPD, sa notion de fond, c'est la responsabilité, l'accountability, et avec, bah, par exemple, le privacy by design. Cette obligation maintenant qu'ont les entreprises de réfléchir dès le départ à comment est-ce qu'on va prendre en compte la protection des données personnelles et de la vie privée dans la conception même, le design de nos fonctionnalités, de nos outils. Et bah, de la même manière, on peut complètement calquer la réflexion sur ce genre de sujet et espérer allier. Évidemment, on ne milite pas pour une suppression du droit dur et des grands principes, au contraire, beaucoup plus se dire que la réglementation et la régulation du transhumanisme, vu que c'est impossible de réguler le transhumanisme, qu'il faut avoir cette approche sectorielle et répondre à des enjeux localisés, associer grands principes et certaines normes dures avec développement dans chacun de ces secteurs, pour chacune de ces problématiques, que ce soit donc les biais de l'intelligence artificielle ou la recherche sur le génome humain, développer cette approche multimodale. Et voilà.